Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e numéro de RetroTaku, votre JT du Retro Gaming. Pour ce 9e numéro, au programme, un dossier sur la conservation du patrimoine vidéoludique, un test sur Outrun, une rubrique console avec un ordinateur cette fois-ci, et puis le RetroDico avec le mot pixel. Mais on commence bien sûr, comme d'habitude, avec les news. Et on commence les news avec une rumeur plutôt improbable. Il s'agirait du retour d'un des plus célèbres jeux, Chakfu, mais célèbre parce qu'il est considéré comme l'un des plus mauvais jeux vidéo au monde. Sorti en 1994 avec un scénario plutôt improbable où Shaquille O'Neal, un très grand basketteur et très célèbre basketteur, devait sauver des griffes d'une momie maléfique un petit garçon. Et rien que ça. Mais toujours sans utiliser ses talents de basketteur. Allez savoir pourquoi. En tout cas, on y croit à ce mec, on y croit. On compte sur vous les mecs. En attendant nous, on continue les news, mais en images.
Le studio français Animan Interactive s'est fait une spécialité dans la réédition de jeux anciens sur de nouveaux systèmes. Dernièrement, c'est Fire and Forget, sorti sur Amiga dans les années 80, qui revient sur le devant de la scène avec un remake à petit prix pour PC, iOS et Android. Vous y contrôlerez une voiture pouvant voler, possédant les armes dernier cri pour vous défendre sur une autoroute particulièrement dangereuse. A noter qu'Anuman a aussi annoncé le retour d'un titre phare de la fin des années 80, Titan.
La console 64 bits d'Atari, sortie en 1993, la Jaguar, n'a pas connu de succès à l'époque. Mais malgré tout, la scène homebrew, à savoir les développeurs amateurs, est toujours active sur cette plateforme et continue de nous abreuver de jeux. Le dernier titre en date est Full Circle Rocketeer du studio Reboot. Vous y jouez un astronaute devant vous défaire d'une armada d'aliens. Le jeu sortira prochainement en format CD.
L'excellent attendu Stormwind est enfin disponible sur la Dreamcast de Sega. Le développement de ce shoot'em up coloré et rythmé a connu diverses péripéties et beaucoup ont cru que le jeu ne verrait jamais le jour. Stormwind vous coûtera dans les 35€ sur les meilleurs sites de vente de jeux amateurs comme PlayAsia ou Red Spot Games.
Dragon Slayer est un jeu d'arcade édité en 1983. Ce dessin animé interactif est l'ancêtre du Quick Time Event, mécanisme vidéoludique très largement utilisé de nos jours. Pour information, ce jeu nécessitait un disque de 30 cm de diamètre pour stocker toutes les vidéos du jeu. Dragon Slayer est maintenant disponible sur la plateforme de téléchargement PC Steam. Il vous en coûtera 9,99€ pour sauver encore aujourd'hui la princesse Daphné. Le remake lui a donné une qualité HD, mais ne lui a surtout pas enlevé sa difficulté historique qui fait le charme et la célébrité de Dragon Slayer.
Le studio Epanasoft vient d'annoncer le développement de leur prochain jeu sur la NEC PC Engine, Lucretia. Ce shoot'em up vous fera jouer des sorcières sur un balai. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est définie car le jeu en est à ses premiers balbutiements. Mais il s'inspire d'un classique de la console NEC, Magical Chase. Nous sommes donc impatients d'en voir plus.
Super Mario Bros. Sur la NES de Nintendo a tout simplement révolutionné le monde du jeu vidéo. Le jeu de plateforme vient de connaître un remake sur une console complètement inattendue, l'Atari 2600. Cette machine beaucoup moins puissante que la NES possède donc maintenant son Mario Bros. Sous le nom de Princess Rescue. La cartouche, accompagnée de sa boîte et de sa notice, est distribuée par le site Atari Edge pour la modique somme de 50€, frais de port compris. Il n'y aura que 100 exemplaires, autant vous dire que ce sera collector, une bien belle et incroyable performance de programmation. Alors, pour le test du mois, on vous propose un jeu qui a d'abord été rendu célèbre par sa borne d'arcade avec un volant. Elle était très belle, c'était la borne d'Outrun. Et ce mois-ci, on vous propose non pas la version arcade, mais la version Mega Drive, et le jeu s'appelait Outrun 2019. On est parti. Avant de vous parler d'Outrun 2019, revenons quelques instants sur la saga Outrun. Cette série de jeux de course qui a fait les beaux jours des salles d'arcade à la fin des années 80 fut développée par Yu Suzuki. Ce game designer de génie a notamment produit des titres comme Afterburner, Space Harrier ou Shenmue. Le premier Outrun met en scène un playboy roulant dans une belle voiture accompagné d'une jolie fille, mais de dos. La voiture, quant à elle, ressemble étrangement à une Ferrari. Ressemble seulement, car avant le deuxième épisode, Ferrari avait jusque-là refusé l'utilisation de son logo à Sega. Quant à Outrun 2019, le cinquième opus de la série, il fut développé par Simsco et édité par Sega exclusivement sur Mega Drive en 1993. Vous y parcourrez donc la planète de Rome à Pékin, en passant par la savane et les océans dans un joli bolide dont le design oscille entre la Batmobile et la DeLorean de Retour vers le futur. Pour les trois du fond qui n'ont jamais joué à un jeu de course des années 90, l'objectif est de finir la course avant la fin du temps imparti. Pour jouer, deux commandes suffisent, une pour accélérer et l'autre pour freiner. Quant à l'aspect technique, l'astuce de programmation d'un jeu de course des années 90 était la suivante. Ce n'est pas la voiture qui avance sur la piste, c'est la piste qui passe sous la voiture restant alors sur la même ligne. Cette ingénieuse méthode permit d'obtenir un rendu de vitesse saisissant pour l'époque. Le véhicule possède aussi un turbo. Dès que ce dernier est enclenché, la voiture roulera de suite à la modeste vitesse de 682 miles par heure, soit juste 1097 km/h. Un conseil, évitez d'enclencher le turbo avant un virage car l'accident est garanti. Bien entendu, lors de votre périple autoroutier, vous aurez des obstacles à éviter, panneaux, voitures, arbres ou encore flaques d'eau. Les graphismes sont vraiment superbes pour une console Mega Drive. Les développeurs ont apporté une attention toute particulière pour les arrière-plans ainsi que les effets 3D des ponts entre autres. De plus, certaines routes transparentes retranscrivent parfaitement le style futuriste du jeu. L'un des charmes de la série Outrun provient de son style de progression. En effet, grâce à un système d'embranchement, une multitude de trajets est possible. Malgré qu'il soit possible de sélectionner le stage de départ, la durée de vie est assez conséquente si l'on souhaite parcourir tous les paysages de Outrun 2019. La playlist du jeu, disponible au générique de fin, est orientée techno, sûrement pour coller à l'univers futuriste du jeu. Côté bruitage, le turbo est un peu désagréable à la longue, mais le son des dérapages des pneus est vraiment sympa et participe beaucoup à l'immersion. Outrun 2019 est donc un soft qui n'est certes pas très connu sur Mega Drive, mais qui mérite vraiment le détour et qui sait, peut-être, qu'il ressortira des étagères en 2019. Dans le dossier du mois, Retrotaku s'est intéressé à un sujet capital pour tous les rétro-gamers, c'est la préservation du capital vidéoludique, à savoir de tous les jeux et de toutes les consoles qu'on vous présente au fil de nos numéros. C'est avec l'association Emo5 qu'on en parle. À l'heure où l'association Emo5.com vient d'ouvrir l'exposition Game Story au musée de la civilisation de la ville de Québec, revenons sur les objectifs de conservation et d'exposition du patrimoine vidéoludique de l'association. Nous les avions rencontrés au Game Story de Paris en 2012.
Pourquoi cette exposition ? Alors, pour ça, il faut savoir un peu ce que c'est que Emo5.com. C'est une association à but non lucratif qui, faisons court, a pour objectif de préserver et conserver le patrimoine informatique et vidéoludique dans le but d'en faire un musée du multimédia, du numérique, des jeux vidéo, voilà. Et ce qu'on a ici, c'est une préfiguration de ce que pourrait être ce musée-là dans l'avenir. C'est un nouveau statut, en fait. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un média comme un autre, qui y a de plus en plus de joueurs et de joueuses, en France, dans le monde, partout. Et il acquiert petit à petit, il a acquis une histoire, une identité, il s'est inspiré de cultures autres, le cinéma, la musique, la bande dessinée. Il a assimilé tout ça pour en faire sa propre culture, sa propre création artistique.
Avec un tel succès, on ne peut qu'espérer le retour prochain de cette exposition formidable en France.
On a en permanence entre 200 et 300 personnes dans la salle, de midi à 22h tous les jours. Ce qui est très intéressant et ce à quoi tient Emo5 aussi, c'est que c'est un public qui est hétéroclite, c'est-à-dire c'est des familles, des joueurs, des plus jeunes, des moins jeunes. C'est ça qui fait tout l'intérêt aussi de... C'est ce vers quoi tend cette exposition, s'adresser à tout le monde, montrer justement que le jeu vidéo s'adresse à tout le monde, donc faire en sorte que cette exposition puisse être perçue par tout le monde aussi.
Allez, dans la rubrique console, ce mois-ci, on vous propose un ordinateur. Mais je sais, un peu bizarre à Rotaku, mais en tout cas, pourquoi on vous propose un ordinateur? Parce que, un, il est joli, t'as vu? Les petites couleurs 80, là, c'est sympa. Et puis, on jouait beaucoup avec cet ordinateur, et en plus, on jouait sur des cassettes. C'est pas trop la classe, ça? Allez, on y va, on découvre ça. C'est la rubrique console, oui, quand même, on n'a pas changé le nom. Parti.
L'Amstrad CPC est un micro-ordinateur sorti en 1984 S'adressant aux débutants, il propose un concept de tout-en-un révolutionnaire avec en standard une seule prise électrique, un clavier, un moniteur pouvant être monochrome ou en couleur et un lecteur de cassettes ou de disquettes. Son prix et ses capacités le placent entre le Commodore 64 et le ZX Spectrum, les deux autres concurrents de l'époque. Mais seul Amstrad avait comme mascotte un crocodile qui restera dans les mémoires grâce à une pub télé d'anthologie. Il connaît un grand succès en Europe, autant chez les professionnels que chez les particuliers, devenant une machine de jeu reconnue et disposant d'un catalogue de plus de 1600 jeux, parmi lesquels beaucoup de jeux d'éditeurs français, tels que Loriciel, Air Informatique, Infogrames, Ubisoft, Titus et Microids. De nombreux titres d'arcade furent adaptés sur le CPC avec plus ou moins de succès, tels que Pac-Man, Ghouls and Ghosts, 1942, Shinobi ou même Street Fighter. Les jeux étaient vendus soit sur cassette audio compatible de base avec le CPC 464, soit sur disquette 3 pouces pour les versions CPC 664 et 6128. La différence entre les deux formats est la vitesse de chargement des programmes. Sachez qu'il faut près de 20 minutes pour charger la version arcade de Star Wars depuis la cassette audio. On comprend facilement pourquoi les versions suivantes proposeront un support disquette plus rapide. Le CPC a été conçu pour être simple et convivial, et cela passe aussi par la simplicité du lancement des programmes, par une simple combinaison de touches. Un progrès pour l'époque, quasiment du plug and play. Le CPC connaît un léger renouveau en 1990 avec la gamme Plus, mais malheureusement pour Amstrad, ses modèles sont trop en retard, et le CPC finit sa carrière commerciale la même année. Mais il n'est pas mort et des développeurs amateurs sortent encore de nouveaux jeux sur cette plateforme mythique, vendue à plus de 3 millions d'exemplaires.
Pour le rétro dico du mois, nous partons aux origines du monde, là où tout a commencé. Nous allons parler du pixel. Oui, le pixel, c'est important pour les rétro gamers. On y va.
Le pixel est une unité de base en informatique. Il s'agit du plus petit détail graphique utilisé par les ordinateurs ou les consoles de jeu pour afficher des images. Le pixel peut être très gros, comme sur la Microvision, ou au contraire très petit, comme sur les écrans LCD récents. Le nombre de pixels pouvant être affichés à l'écran définit la qualité des graphismes. Plus leur nombre est élevé, plus l'image pourra être fine et détaillée. Les images dites pixelisées sont à la mode. Alors que nous en sommes aux écrans HD, des artistes réalisent des créations avec le moins de pixels possible, et cela s'appelle le pixel art. Il faut avouer que cela a du charme, non? Vous aussi, utilisez les pixels et réalisez des chefs-d'œuvre en post-it ou en perles, vous ferez des jaloux.
Et voilà, c'est la fin de ce 9e numéro du JT du Retro Gaming. C'est le dernier de la saison, mais rassurez-vous, on a décidé de revenir l'année prochaine. Merci à tous de nous suivre. Merci à Mathieu Chaumont, notre rédacteur en chef et président de l'association RetroTaku. Et puis merci à toute l'équipe de bénévoles qui a permis cette émission. Voilà, en attendant bien sûr, vous pouvez continuer à trouver les informations Retro Gaming sur www.retrotaku.com, sur la page Facebook de l'association, et vous pouvez nous envoyer un message, une actu, une info à jt@retrotaku.com. À très bientôt. Ciao.